Ce jour-là, j'ai eu un immense choc, en fait. J'en ai eu un si grand que je n'en ai jamais parlé.
En fait, adolescente, je me sentais déplacée, comme un geste ou comme une parole peuvent être déplacées.
En famille, en amour, au travail, en société, trouve-t-on jamais tout à fait sa place ? Ce sentiment d'être en adéquation avec soi-même, de se rapprocher de la personne que l'on a l'ambition d'être. Une carrière pertinente qui nous rend heureux, un entourage qui nous aime pour ce que nous sommes, une vie qui nous ressemble ou tout du moins nous trahisse le moins possible. Parfois, ce sentiment de cohérence arrive vite, parfois plus tard, quelquefois jamais. Le plus souvent, il se déplace par vagues. Je suis Marion Ruggieri et dans le podcast Les Vagues, un tout nouveau podcast de Elle, j'interrogerai des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois, mais aussi le moment où elles se sont senties déplacées. Je me rendrai chez elles ou dans un lieu cher à leurs yeux pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit « Là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être et c'est moi ». Découvrez et écoutez Les Vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Elle s'attable. Le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes.
Depuis l'aube de l'humanité, les femmes nous nourrissent. Aujourd'hui encore, elles produisent plus de 70% de la nourriture consommée dans le monde et cuisinent la quasi-totalité des repas. Elles sont aussi nombreuses à s'investir pour une alimentation de meilleure qualité. Chefs réputées ou talentueuses méconnues, elles sont les invitées de notre podcast Elles s'attablent.
Elles s'attablent.
Au fil des mots et des rires, elles nous expliquent comment, en traçant leur route, elles inventent les chemins gourmands de demain.
Elles s'attablent, une émission présentée par Danielle Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à table.
Pour ce nouvel épisode d'Elle s'attable, nous recevons Delphine Plisson. Alors Delphine Plisson est un nom que l'on connaît à Paris parce que c'est l'auteur et l'âme des fameuses maisons Plisson qui ont réinventé l'épicerie. Nous allons parler avec elle, épicerie évidemment, développement, évidemment, esprit d'entreprise, restauration et surtout humour, car je pense que Delphine est l'une des femmes les plus drôles et intelligentes que je connaisse. Bonjour Delphine.
Bonjour. Merci. Grosse pression.
Toujours.
Dès l'intro.
Elle s'attable.
Merci de nous accueillir chez Maison Plisson. Alors nous sommes place du marché Saint-Honoré, dans la plus grande des Maisons Plisson, qui a ouvert de mémoire il y a 3 ans celle-ci.
Absolument, en juillet 2018.
Voilà, ouais. Et qui combine donc épicerie, très bien achalandée, avec on a quoi ici, 6000 produits ?
Il y a un peu plus de 6000 produits, la moitié frais et l'autre moitié épicerie sèche et cave à vin, bien sûr.
Art de la table aussi,
un petit peu, ouais.
Restaurant ?
Oui.
Café ?
À nouveau, depuis peu, oui.
Boulangerie ?
Oui.
Pâtisserie ?
Oui.
Bon, bref, il y a tout. En tout cas, tout ce qu'il faut pour être heureux. Alors, Maison Plisson, commençons par le commencement. Vous, vous êtes une épicurienne depuis toujours, mais rien ne vous destinait au départ à monter des épiceries ?
Pas du tout. Effectivement, épicurienne, ça certainement. Je pense que les activités que je préfère dans la vie, c'est quand même manger et boire, idéalement entre amis. Par contre, ma vocation première était d'être libraire. Donc, j'étais partie dans ce chemin-là en partant à travers des études de gestion et de commerce sans passion du tout, mais parce qu'on m'avait clairement recommandé d'aller dans cette voie-là, dans la mesure où une librairie, c'est avant tout un commerce. Et à la fin de mes études de gestion et de commerce, le hasard a voulu que je rencontre quelqu'un qui travaillait chez Agnès B, qui m'a proposé un stage là-bas. Et puis, la vie étant ce qu'elle est, les aventures se sont enchaînées, les opportunités, les rencontres ont fait que j'ai passé plus de 20 ans de ma vie dans ce secteur qu'on appelle de la mode, où je me suis à la fois beaucoup amusée et beaucoup ennuyée, parce que je n'avais pas de vocation personnelle et particulière pour ce secteur-là. Et j'ai passé les 20 mêmes années à pourrir la vie de mes amis et de mes enfants, parce qu'il fallait toujours qu'on loue une maison pour les vacances en hyper proximité d'un marché, parce qu'il faut toujours que je mette mon réveil à 5h du mat pour être prompt, de peur de qu'il n'y ait plus le poisson que j'espérais ou les légumes, etc. Donc la première réflexion que ma fille aînée, qui à l'époque avait, je crois, 13 ans, a eue quand je lui ai annoncé que j'allais créer la maison plus tôt, elle m'a dit « Ah, enfin, on va pouvoir dormir le matin !» Tira toute seule.
Et elle avait raison.
Elle avait raison à peu près. Elle fait quand même encore un peu partie de l'aventure et je continue à aller beaucoup voir des producteurs, des vignerons, etc. dès qu'on a l'opportunité. Donc, c'est assez obsessionnel chez moi, ouais, le bien manger et surtout les gens qui font.
L'obsession de la Maison Plisson, c'est de remettre à l'honneur le travail des artisans et des artisans français. Expliquez-nous ça.
En fait, le propos de la Maison Plisson, c'était initialement de pouvoir créer un lieu de vie qui serait vraiment entièrement tiré par le bon sens et le plaisir, qui étaient deux dimensions qui me semblaient assez absentes des lieux de distribution d'alimentation quotidienne. Il y a la grande distribution d'un côté où il faut
consommer... Pas très plaisante, soyons clairs.
Mais qui représente une énorme partie de sources d'alimentation pour les Français, mais qui n'incarne ni le bon sens, ni le plaisir. Et en même temps, j'avais ce constat qui est que 50 ans en arrière, la grande distribution n'existait pas. Et a priori, les Français mangeaient déjà. Ils s'alimentaient plutôt au moins aussi bien, si on en croit les statistiques et l'évolution des maladies depuis l'arrivée de la grande distribution et des produits industrialisés, ultra transformés, etc., etc. Donc en fait, le propos de base, c'était de revenir un peu à ces périodes de bon sens, à respecter les saisons, à ne pas vendre de tomates en hiver, des choses comme ça, à ne pas avoir 200 yaourts bourrés d'additifs et de colorants uniquement parce que les enfants adorent ça. Je ne sais pas qui a décrété que les enfants adoraient les colorants. Bon. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de revenir à ça, de regrouper le savoir-faire de, en l'occurrence, il y a à peu près 650 producteurs, artisans, vignerons, maraîchers, éleveurs, avec qui on travaille, qu'on a été rencontrés dans toute la France, qui font un travail extraordinaire, avec un savoir-faire hors du commun, dans des terroirs que le monde entier nous envie. Et je trouvais dommage qu'il n'y ait pas un lieu qui leur soit vraiment consacré et dans lequel ils ne soient pas mélangés. Dans le meilleur des cas, avec des produits industriels qui sont sans commune mesure comparable, mais qui sont fatalement moins chers parce que vides de quelque intérêt que ce soit. Donc, l'idée de base, c'était ça, c'était de permettre aux gens qui ont envie de faire de leur alimentation quotidienne une des priorités dans leur vie pour des raisons politiques, santé, intérêt général au bien-être et à la qualité de leur alimentation, de pouvoir effectivement... trouver de quoi bien se nourrir, bien nourrir ses enfants, découvrir ou redécouvrir le plaisir de travailler des produits bruts de saison, de qualité, sans en faire un lieu ni luxueux ni chichiteux, au contraire, avec uniquement une équipe de gens passionnés qui ont envie d'être à la fois au service de ces artisans pour les représenter et au service des clients pour les aider à mieux s'alimenter, à prendre plus de plaisir, à être en meilleure santé. Et bien sûr, via le Covid qu'on vient de traverser, enfin j'espère qu'on l'a traversé en tout cas, c'est aussi bien sûr une source de réconfort. Ouais.
650 producteurs qui regroupent 7000 produits qu'on vous propose tout au long de l'année.
1200 m2, place du marché Saint-Honoré, un lieu unique à Paris, pile dans l'air du temps où le bio et le bon font la loi.
Cette personne, qui est une femme qui à l'origine vient de la mode et qui a créé ce concept, a voulu nous offrir des produits qui sont avant toute chose bons.
Elle s'attable.
Est-ce que vous diriez, Delphine Plisson, que ce projet avait, même si vous ne vous en rendiez pas forcément compte, presque un volet politique ?
Je m'en suis rendu compte, alors assez vite, parce que je me suis rendu compte que c'était déjà faire de la politique que d'essayer de protéger ce savoir-faire, d'essayer de faire respecter un minimum de bon sens, ne serait-ce que d'admettre qu'on n'a pas besoin de produits industriels et qu'on doit respecter les saisons et que l'humain passe aussi dans les priorités du choix des produits qu'on va sourcer pour la maison. Oui, bien sûr, c'était déjà... à travers mes convictions personnelles, en l'occurrence, tout le monde doit pouvoir avoir une alimentation de qualité, quel que soit son budget. On doit pouvoir s'offrir des œufs de qualité, trois légumes d'un maraîcher en Île-de-France, une tranche de jambon qui soit pas blindée,
qui n'ait pas traversé l'Europe.
Non, mais voilà, et qui soit pas blindée de flotte d'antibiotiques. Et on s'est rendu compte très vite d'ailleurs qu'on avait une clientèle beaucoup plus variée que l'idée qu'on peut se faire de la Maison Plisson quand on n'est jamais venu au quotidien. quotidien, on a des clients qui viennent de tous les milieux, de tous les horizons et qui, pour des raisons diverses et variées, font l'effort ou
le choix.
Apprécient la possibilité de pouvoir effectivement en faire un engagement personnel et choisir d'avoir une alimentation qui va être à la hauteur de leurs ambitions pour eux et souvent pour leurs enfants aussi.
Vous avez fait le choix aussi dès la première maison Plisson. Alors moi, je me souviens d'avoir visité le chantier de la première maison Plisson parce qu'on avait fait un article dans le L à l'époque.
Ah, ouais.
Et c'était dans une cour. Vous aviez fait le choix déjà à l'époque d'avoir un restaurant. Pourquoi mixer épicerie et restaurant ?
Alors pour moi, ça tombait sous le sens, pour plusieurs raisons, mais je ne me suis jamais vraiment posé la question, ça s'est imposé directement. La première raison, c'est qu'on voulait éradiquer le gaspillage alimentaire. Dans n'importe quel supermarché, marché ou épicerie, s'il n'y a pas la possibilité de transformer les produits qui sont en fin de vie ou qui sont moches, bah, ils passent à la poubelle. Voilà. Donc le propos était d'éviter ça. Donc le plus simple, c'est quand même d'avoir quelqu'un qui tous les soirs fait le tour du marché pour repérer la tomate qui fait la tronche, la courgette un peu de travers, et qui récupère tout ça, qui emmène tout en cuisine et on
et qui transforme
tout, comme on le ferait quand on a un potager, quand on a la chance d'avoir un potager chez soi. Bah, tous les soirs, on va transformer ce qui est mûr ou ce qui doit être transformé, et puis ça fait le repas de demain et tout le monde est content. Donc ça, c'était la première raison. Et puis, par extension, je trouvais ça génial que les gens puissent venir à la maison Plisson, se mettre à table. Et puis le père va décider d'aller acheter une bouteille de vin pour ce soir. Et puis le gamin va aller acheter des framboises. Et puis la mère va faire un tour dans l'épicerie. Et puis à la fin du repas, ils auront non seulement passé un bon moment entre amis, et puis ils auront de quoi dîner ce soir et puis peut-être se faire un goûter sympa. Tout le monde est content. Ça transforme aussi la corvée des courses en moment de plaisir, ce qui est quand même une vraie dimension, parce que c'était une des ambitions que j'avais. C'était en rigolant, je disais à mes copains que les hommes allaient se battre pour aller faire les courses.
Vous étiez partie pour ouvrir une épicerie. Aujourd'hui, il y en a largement plus d'une, parce qu'après les maisons Plisson, il y a aussi eu des petits Plisson.
Ouais.
Racontez-nous ce que sont les petits Plisson.
Alors, il y en a combien déjà maintenant ? Il y en a bientôt 4. Voilà. Oui. Les petits Plisson, c'est venu d'un constat tout simple, où précisément, alors je crois que c'était pendant... les gilets jaunes pendant une période de mouvements sociaux assez intenses où on avait pas mal de clients à Saint-Honoré en particulier qui venaient nous dire le matin, ils venaient prendre un café, ils disaient genre, j'aurais pas le temps de sortir déjeuner parce que je galère trop dans les transports le matin et le soir, donc j'aurais pas le temps de venir au resto. Ça vous ennuie de me mettre un plat du jour dans une barquette que je puisse quand même bien manger mais à mon bureau parce que j'aurais pas le choix. Ben, on s'est dit tiens, c'est pas bête, on n'a pas cette offre là, on a soit t'as le temps et les moyens d'aller au resto, soit t'as le temps et l'envie de cuisiner, mais on n'a pas le truc où t'as pas vraiment le temps d'aller au resto et t'as quand même envie de bien manger sans pouvoir te faire un petit risotto dans ton bureau tranquille sur ta petite plaque électrique. Donc on a commencé à imaginer une gamme de plats qu'on aimerait nous manger entre midi et deux, qui seraient faits maison avec des produits de saison. Et puis on a commencé à proposer ça, donc des plats cuisinés, des salades, des soupes, des quiches, des sandwichs, etc., des desserts. Puis on a vu que ça prenait et du coup on s'est dit ça serait intéressant de pouvoir implanter des petites ambassades en fait de Maison Plisson. Avec à la fois cet axe-là qui est vraiment l'axe midi 2, j'ai envie de bien manger, de me faire plaisir, je vais me faire livrer par une plateforme de livraison si j'ai pas le temps d'y aller, mais en tout cas je sais qu'il y a une offre et que ça tend à être vertueux. C'est fait avec des produits de saison, des produits d'artisans, le packaging est sans plastique, on s'est débrouillé pour travailler avec du carton et de la fécule de maïs biodégradable. On a essayé de faire en sorte que ce soit vraiment plutôt vertueux, même si c'est toujours très compliqué, en tout cas cohérent pour sûr. Et d'essayer de faire en sorte que ce soit hyper accessible et très simple pour tout le monde. Et on s'est rendu compte très vite en ouvrant le premier petit Plisson qu'en fait, il y avait aussi une demande pour le soir. Je sors du bureau, j'ai pas le temps de cuisiner ou j'ai un apéro, j'ai des copains qui arrivent. Donc, on a ajouté une gamme plus traiteur qui permet à chacun de pouvoir trouver des plats cuisinés et une centaine de références d'épiceries, de boulangeries, de charcuteries, de boucheries, etc. Qui sont prêts à consommer. Et qui sont disponibles donc 7 jours sur 7 dans les petits Plissons et ou à travers le site internet qu'on a lancé l'année dernière.
Donc là, il y en a un quatrième qui va ouvrir bientôt.
Il y a la troisième qui ouvre dans le jardin des Tuileries ce week-end.
Avec une fameuse terrasse en plus.
Ouais, voilà, avec une sacrée terrasse.
On en avait déjà parlé l'année dernière, il me semble. Hein.
Ça devait ouvrir en mars 2020, donc c'est vrai que mon excitation est un peu retombée quand même. Mais j'avoue que
vous avez pu peaufiner le projet.
Oui. Oui, c'est vrai que c'est assez frustrant quand même d'attendre un an entre l'officialisation d'un projet et sa réalisation. Mais on est quand même extrêmement content, d'autant plus que c'était un appel d'offres. Tu sais, comme ça arrive souvent dans Paris avec les musées, les gares, etc. Je réponds très, très rarement parce que c'est souvent D'abord très administratif, très compliqué,
il faut compter
très
une soixantaine de pages.
Ouais, et puis un an ou deux, et puis c'est souvent très politique, hein, en général, grosso modo, je pense qu'ils savent déjà à qui va être confié le truc. Donc on avait hésité, mais en même temps l'adresse, quoi, avoir un emplacement dans le jardin des Tuileries, c'était quand même un truc de dingue. En plus, c'est un jardin qui est hyper central, splendide, mais assez peu vivant, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, j'adorais, quand mes gamins étaient plus jeunes, les emmener au trampoline ou se balader entre le jeu de paume.
Il y avait des restaurants autrefois, je m'en souviens.
Il y a des kiosques, il y a toujours eu des kiosques. Mais après, si tu as envie de manger un produit, une salade avec des produits de saison, etc., je pense qu'il faut que tu viennes avec. Enfin, c'est quand même pas vraiment... Mais c'est le cas partout, parce que c'est comme si tu voulais manger un... Enfin, je sais pas, un produit artisanal dans une gare, tu vois, il faut quand même que tu prennes un peu d'élan. Enfin, il y a effectivement le plus simple, c'est de venir avec son manger, tu vois. Mais après, voilà, je trouvais que l'adresse.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
C'était dingue que de pouvoir proposer justement une offre alternative avec des produits artisanaux, des choses qui sont faites maison, qu'on fait ici. On est quand même à une minute à pied du jardin des Tuileries. Oui. Donc, c'est quand même assez génial de pouvoir rester dans ces valeurs-là.
Tu peux même livrer en limite en charrette à bras.
Ouais, c'est ce qu'on fait, figure-toi, parce que ouais, on est vraiment très près. Donc, on a un triporteur et des charrettes à bras et on va faire des allers-retours. Donc, c'est une organisation de folie, mais en même temps, il y a 240 places assises. Il va y avoir plein d'animations autour parce que, pareil, je me suis dit, mais quand même, avoir un emplacement là. Du coup, on a demandé à Clotilde Chaumet d'organiser des cours de yoga le matin, puisqu'on s'est dit, on a des super bons jus de fruits, ça serait génial de pouvoir
à
faire un petit... On est en train de l'organiser, mais ça sera tôt, j'espère. Après, ça dépend beaucoup des horaires d'ouverture du
jardin.
J'ai
une petite chance, donc, de les voir.
Parce que, ouais, t'as une chance de les voir. Et on a organisé des rencontres littéraires qui auront lieu le soir. On a organisé Déborah Pham de Mint, qui est une revue que j'adore, va venir organiser des rencontres... de bons vivants, en recevant une céramiste, un chef, un vigneron, un peu comme elle fait dans sa revue, mais cette fois-ci en public, entre guillemets. C'était chouette de pouvoir demander à 4-5 nanas comme ça, Clotilde, Margot, Déborah, etc., de pouvoir se joindre à nous et de pouvoir créer ce lieu qui va être très différent de Montorgueil, très différent de Beaugrenelle, très différent de celui de la Samaritaine qui ouvre donc le 19 juin. Et je trouvais ça assez chouette de pouvoir proposer des petites ambassades comme ça dans Paris.
La maison Plisson, une grande maison qui a rendu complètement rock'n'roll l'idée même de l'épicerie de luxe.
C'est pas très grand, c'est une halle alimentaire qui ont nécessité de la part de la fondatrice un tour de France d'un an pour trouver, sélectionner, goûter, tester, approuver des produits que vous ne trouvez pas ailleurs à Paris.
Avec la maison Plisson, c'est de pouvoir avoir quelqu'un qui croit en nos produits, qui puisse en faire la promotion tous les jours dans des grandes villes pour être proche du consommateur, même loin de chez nous.
Elle s'attable.
Est-ce que vous qui êtes en première ligne avec les producteurs, est-ce que vous diriez que ce qui fait la particularité de la France, c'est-à-dire ce réseau de production incroyable, est-ce qu'il est en péril aujourd'hui ?
Non, je pense, j'espère. Évidemment, non, j'en sais rien, j'ai pas la réponse, mais j'espère pas. Et en tout cas, je ne pense pas parce que, étant d'une nature plutôt optimiste, mais en constatant les choses dans mon métier au quotidien, ce savoir-faire et ces terroirs qui sont les nôtres nous préservent quand même énormément d'une invasion ou d'une délocalisation violente de ces métiers. Je pense que c'est pas demain la veille que les Chinois vont faire du roquefort. Enfin, tu vois, il faut quand même un peu le terroir, l'entraînement, les années. Rien ne remplace ça. Tout le monde a essayé de faire du vin. Je veux bien, mais enfin bon, tu m'enlèveras pas de la tête qu'un bon Bourgogne. Tu vois, on est quand même encore pas tout à fait arrivé à ça la plupart du temps. Donc, et ça fait des décennies que certains pays bossent dessus. Il y a des choses super, mais globalement, je pense que dans le monde entier, les gens ont quand même spontanément un respect, une tendresse, une admiration pour ces terroirs et ce savoir-faire qu'on a en France, qui est à la fois ultra varié. Il n'y a pas une région où tu manges mal.
Non.
Il n'y a pas une région où tu bois mal. tu vois, et au contraire, il y a encore plein de nouvelles, toutes les jeunes générations qui reprennent ces vignobles, qui reprennent ces exploitations, qui ont beaucoup de l'ambition d'abord de bien faire et de s'émanciper justement de ces réseaux de distribution qui les ont beaucoup écrasés pendant des décennies, qui ont écrasé leurs parents, oui. maltraités, etc. Donc, qui ont très envie de pouvoir partager la fierté qu'ils ont de leur savoir-faire et de leur connaissance et de leur métier et de pouvoir la faire respecter à nouveau. Et il y a de plus en plus de réseaux de distribution qui aujourd'hui leur permettent ça. On en fait partie, on n'est pas tout seul, on n'a pas inventé la roue. Mais en l'occurrence, c'est génial de pouvoir constater que les choses, bien sûr que c'est ultra difficile, qu'être agriculteur en France, c'est extrêmement compliqué et violent. Néanmoins, notre quotidien prouve que les choses bougent, qu'elles peuvent bouger, et qu'il faut être un peu positif parce que sinon on s'allonge par terre, on se fout le feu et on passe à autre chose. Mais qu'en vrai, à force de volonté, de travail, d'acharnement, et à force de lieux comme la Maison Plisson qui permettent précisément à ces producteurs d'être respectés, d'être rémunérés, de vivre de leur travail, de pouvoir le transmettre avec fierté et non pas avec honte à leurs enfants en ayant l'impression de leur léguer un truc pourri et hyper abîmé, etc. Plus les énergies seront dans cette construction-là, mieux on se portera. Moi, j'ai visité des dizaines d'exploitations où à 6 heures du mat, le type est hyper content de se lever pour te montrer comment il fait ses confitures, sa terrine ou son vin. Et tu sens qu'il est vraiment porté par des années de travail.
Il est animé.
C'est génial. Enfin, tu vois, ça redonne du sens à tout ça et ça redonne du poids à tout ça. Moi, je trouve ça... Je suis hyper optimiste quant à la façon dont les choses vont évoluer parce que, en fait, on nous a fait croire pendant des décennies que cuisiner, c'était un truc un peu...
Ringard.
Ouais, et puis c'est vraiment dévalorisant. Enfin, tu vois, c'est un truc de... Bon, t'es bonne qu'à ça, tu prépares les repas pour tes gamins ce soir. On nous a expliqué qu'en fait, il valait mieux manger des trucs préparés industriellement parce que c'est hyper pratique. C'est pratique, enfin, tu vois, c'est pas... Par contre, c'est dégueulasse et c'est hors de prix pour ce que c'est, mais c'est pratique, tu vois. Mais... je crois que les gens sont quand même pas débiles et tout le monde est en train de se rendre compte qu'en fait, il n'y a jamais eu autant de diabète chez les enfants en France, il n'y a jamais eu autant de maladies inflammatoires que depuis quelques décennies. Il n'y a pas besoin de chercher loin pour imaginer qu'il peut y avoir un lien entre la médiocrité de ce qu'on nous a mis dans le bec pendant toutes ces années et l'état de la santé.
Et on a vu avec la crise sanitaire qu'on traverse depuis un an à quel point ces maladies peuvent littéralement fragiliser les organismes et les personnes.
Oui, mais c'est quand même... Enfin, on l'a toujours su. Je pense que, tu vois, avant, les gens mangeaient ce qu'ils avaient dans leur potager ou ce qu'ils trouvaient au marché. C'était donc, de fait, des produits de saison. C'était des produits non transformés.
Mmh. C'était du ultra-local.
À l'époque, personne n'avait l'idée que faire une omelette, c'était vraiment une perte de temps ou qu'on allait passer beaucoup trop de temps en cuisine en préparant un plat de pâtes. Enfin, je ne sais pas qui a eu cette idée, mais je trouve ça sidérant qu'on ait réussi à nous transformer en consommateurs alors qu'on était là, nous, pour s'approvisionner en produits destinés à nous nourrir et à nous protéger. Ces deux verbes n'existent pas dans la distribution alimentaire en France. Donc, revenir au bon sens et expliquer à ton môme qu'en fait, non, il n'y a pas de tomates en février, mais ce n'est pas grave, il y a des courges, il y a plein d'autres choses qui vont être super.
Et les tomates reviendront et ça sera formidable.
Et on fera la fête de la tomate et il y aura après... et puis les fraises arrivent, c'est génial de pouvoir manger des fraises. Pourquoi tu veux manger des cerises en janvier? À quel moment? Pourquoi faire? Elles n'ont aucun goût, en plus, complètement con. Et ça coûte une fortune. Ça vient du bout du monde. Enfin, ça n'a aucun sens, en fait.
Elsa Table. Est-ce que vous diriez, Delphine Plisson, que les femmes peuvent transformer le monde à travers les assiettes ou que ça n'a rien de particulier? Être une femme ne change pas fondamentalement les choses dans l'approche au monde.
Ouais, j'allais dire, je suis pas sûre que ce soit un truc de sexe ou de genre ou de... Non, je pense qu'en fait, c'est ensemble et tous ensemble qu'on peut faire bouger les choses. Alors, je suis pas... Moi, je pars du principe que sans les mecs, je serais moins bien et moins heureuse et moins épanouie. Et que cette espèce de rapport de force qu'on peut avoir me convient bien. Bon, après, j'ai grandi en banlieue, donc j'ai grandi un peu comme un garçon manqué. J'ai toujours eu ce tempérament un peu de... J'ai l'insulte facile, j'ai pas peur de me battre, je suis un peu... différente, mais je suis pas vraiment une princesse à la base, mais donc je crois pas que ça soit un truc de genre et c'est pas un truc avec lequel je suis très à l'aise. J'ai jamais vraiment compris pourquoi il fallait absolument qu'on se compare, comme si on comparait à Isabelle Adjani, Catherine Deneuve, tu vois, qui est la meilleure actrice. J'en sais rien en fait, les deux, enfin pourquoi il faudrait choisir. Bah, pour moi, les hommes ont leurs qualités, leurs défauts. Les femmes aussi. Musset en a parlé avant moi, je crois. Et en l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est précisément d'être ensemble et de pouvoir faire bouger les choses ensemble. Un peu de bonne volonté des deux côtés, certes. On en a sans doute manqué jusqu'ici, certes, mais on les a laissés faire. Donc, à un moment donné, c'est pas une raison pour leur couper les couilles, mais à un moment donné, on est toujours plus intelligent à deux, plus fort à deux. Et l'échange et le partage, a priori, sont des sources qui permettent à chacun de devenir un peu plus ouvert, un peu plus ouvert au monde, quoi. Donc, moi, j'aime beaucoup l'idée qu'on puisse faire bouger les choses, y compris à table. Mon mec cuisine autant que moi, adore faire les courses. C'est plus souvent lui qui cuisine à la maison que moi. Et pour autant, j'ai pas l'impression d'avoir gagné au loto. Enfin, je trouve ça un peu normal aussi, tu vois. Ça se fait comme ça, en bonne intelligence, en fonction de nos disponibilités, de nos envies. Et c'est le principe, quoi.
Delphine Plisson, comment vous imaginez-vous et comment imaginez-vous les maisons Plisson d'ici, mettons, 5 ans?
En vrai, j'en ai aucune idée. Je me projette jamais. C'est une particularité propre. Je ne suis pas du tout nostalgique et je ne vis jamais dans le futur. J'essaye vraiment d'être absolument dans le présent. La vie m'a appris qu'en fait, ça ne sert à rien de projeter quoi que ce soit. Ça ne se passe jamais comme on l'avait pensé ou espéré. Donc, tu peux travailler dans une direction en disant « j'aimerais faire ci ou ça ». Si je voulais être petit rat de l'opéra, il faudrait peut-être que je m'y mette, là. Tu vas faire deux, trois...
Ces entrechats.
Mais voilà. Mais non, en fait, j'aime bien l'idée de me laisser vivre en gérant les choses en fonction de mes désirs, qui sont beaucoup liés à des rencontres, à des opportunités. Donc, en fait... Je ne sais pas du tout ce que je ferai dans 2 ans ou dans 5 ans, parce que sans doute, je vais rencontrer des gens où on va me proposer, j'en sais rien, une collaboration, une nouvelle ouverture, un projet à l'étranger. En fait, j'en sais rien. Et j'aime beaucoup l'idée de me laisser cueillir et de ne rien travailler s'interdire. À fond. Ah non, de rien s'interdire, bien sûr. Et puis, une fois que le désir est là, de travailler à fond pour être... pour réaliser ce nouveau projet. Mais rien n'est prévu, quoi. J'avais pas prévu de me retrouver avec 5 mômes à la maison. Il y a plein de trucs que j'avais pas prévu dans ma vie. Et c'est un peu ce qui m'intéresse. Je détesterais avoir un plan de carrière. J'étais pas du tout faite pour progresser dans ma carrière à la SNCF, quoi. Il me faut de l'inattendu, il me faut des surprises, il me faut des rencontres, il me faut des risques.
Des projets.
Et donc des projets. Parce qu'en fait, c'est la définition d'un projet, tout ça, quand même.
La vie n'étant qu'une succession de projets.
Ouais, de projets, de rencontres, de surprises, d'aléas aussi, de contraintes. Le Covid en a été une. C'est pas perso, je m'en serais passée. J'ai pas trouvé que ce soit vraiment super intéressant comme expérience. Les mouvements sociaux d'avant et d'après, c'est même si tu peux les expliquer, les comprendre, etc. Bah quand t'es commerçant, c'est quand même des contraintes. Faut s'adapter.
Et que ça défile tous les samedis devant.
Ouais, en fait, bon, c'est vrai qu'on est hyper bien placé, mais. Dans la vraie vie, tout ça, il faut s'adapter, il faut transformer, il faut imaginer des choses qui vont nous permettre de passer quand même, etc. C'est super intéressant. C'est le principe de l'entrepreneuriat aussi, c'est-à-dire d'arriver à apprendre à s'adapter à tout, tout le temps, en permanence, et à ne jamais paniquer, quoi.
L'optimisme ?
Je connais pas l'autre version. J'ai une chance folle, hein. Je suis née optimiste. Après, j'ai beaucoup travaillé pour le rester, parce que la vie passe son temps à essayer de dégrader quand même notre optimisme. Donc, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Donc, j'y travaille beaucoup. J'essaie de pas m'épuiser, parce que je sais que quand la machine est abîmée, le corps est abîmé, c'est plus difficile d'y voir clair et d'être positif et d'être dans la construction. J'essaie de bien m'entourer. J'ai besoin d'avoir des équipes, des amis, un amoureux, des enfants et d'être galvanisée par tous ces échanges dans la vie. Tu vois, quand je me couche le soir, c'est très rare que je me dise pas genre « chouette, vivement demain, quoi. Encore une, ah, chouette, encore une ». Ça, cette conscience d'être ici et maintenant et de savourer la chance qu'on a et de se contenter...
De faire son miel de ce qu'on vit.
De se contenter de ce que je suis, de me contenter de ce que je suis, de me contenter de ce que j'ai et de savoir le savourer vraiment, quoi. C'est-à-dire, tu ne peux pas passer ta vie à essayer de perdre 3 kilos en espérant faire 10 centimètres de plus et être plus ceci, moins cela. Je trouve ça super parce que je suis à 50 balais, donc, parce que j'ai appris à m'en contenter. Mais je pense que c'est un gros travail, mais que c'est quand même un but dans la vie d'arriver à être juste bien dans ses pompes, quoi.
Merci infiniment, Delphine Plisson. En ce qui me concerne, je vais attaquer cette journée avec encore plus d'optimisme et d'énergie que d'habitude. Merci à tous. pour d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Elsa Table. Et nous sommes comme les chefs, nous aimons les étoiles. Donc n'hésitez pas à commenter, noter et surtout à nous rejoindre bientôt pour un prochain épisode.
Elsa Table, le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes. Elsa Table, en podcast sur toutes les plateformes de streaming.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.